Nouvel horaire pour Au cœur de l'histoire et nouvelle formule que Franck Ferrand nous a concoctée pendant ses vacances. Et oui, bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison plus riche, plus forte. Vous savez, j'étais hier à la Forêt des Livres chez Gonzague Saint-Brice. J'ai rencontré de nombreux auditeurs qui attendaient ce rendez-vous.
Ah,
nous sommes
ça fait
donc
plaisir.
Tous très excités. Alors cet été, chère Julia, quand je ne vous écoutais pas dans Campus,
merci beaucoup.
Je me suis demandé comment rendre plus intense nos rendez-vous. Et avec toute l'équipe, nous avons conçu la formule que je vous propose aujourd'hui.
Avec un sujet qui s'imposait pour la première de la saison.
Puisque, en effet, nous allons parler de mise au monde, de naissance, d'accouchement. Espérons que le nouveau-né vous plaira.
Et pour reprendre les bonnes habitudes, Franck, je rappelle à nos auditeurs qu'il est possible, évidemment, d'intervenir dans l'émission via le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr, et sur un réseau social bleu bien connu.
Voilà, on ne le nommera pas, évidemment.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Comment nos grands-mères accouchaient-elles? Donnaient-elles la vie allongée, assise, pourquoi pas debout? Quelles précautions prenait-on? Qui assistait la parturiente? Où se recrutaient les sages-femmes? Comment est-ce qu'on les distinguait des ventrières? On verrait la petite subtile distinction. Et puis à quelle époque ces femmes ont-elles été remplacées peu à peu par des hommes, les médecins accoucheurs? Quand a-t-on utilisé pour accoucher la chaise de travail? De quelle manière les pères assistaient-ils à l'accouchement? Voilà quelques-unes des questions fondamentales et cependant jamais posées, quelques-uns des problèmes qui se trouvaient au cœur, pour ne pas dire à l'origine, de la vie de nos ancêtres et que j'ai choisi de nous poser symboliquement pour cette première émission de la saison. La naissance, les nourrissons et leurs nourrices, la mortalité des bébés et celle de leur mère, les choix parfois tragiques auxquels il fallait procéder, tout cela va nous occuper aujourd'hui. On parlait jadis non pas d'accouchement mais de couche au pluriel, non pas de convalescence postnatale comme aujourd'hui, mais de relevailles. Couches et relevailles, tel aurait pu être le titre de cette émission que j'ai par un clin d'œil à Victor Hugo intitulé « Lorsque l'enfant paraît ». Alors tout à l'heure, à 13h30 exactement, mon récit fera revivre, avec toute la charge nécessaire de drame et d'angoisse, la toute première césarienne dont l'histoire est conservée le souvenir. Ça se passait en l'an 1500 dans le canton de Turgovie, tout au nord de la Suisse. Avant ça, j'aimerais trouver, en compagnie de mes deux invités d'aujourd'hui, quelques réponses à toutes ces interrogations que je viens de soulever. Vous connaissez bien sûr Jean-François Lemoine, il est le monsieur santé de européen, bien habitué non seulement de ce micro mais de ce studio, on peut le dire. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Merci.
Merci.
Merci d'être avec nous. Il connaît, ce Jean-François Lemoine, toute l'histoire de la médecine, vous allez très vite comprendre. Quant à Carole Mann, historienne et sociologue, elle est l'auteur chez Pygmalion de Chérubins et Morveux, bébés et layettes à travers le temps, un ouvrage essentiel qui est paru juste là au début de l'été, dans lequel vous nous apprenez, Carole Mann, énormément de choses. Et ce que l'on comprend d'abord lorsqu'on vous lit, c'est que pendant très très longtemps, cette affaire d'accouchement restait une histoire de femmes. C'était les femmes entre elles, en quelque sorte.
Oui, c'était exclusivement une affaire de femmes. Les femmes s'en occupaient tant pour la grossesse que pour l'accouchement. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains hommes s'en occupaient, mais de très très loin. Tous
voilà,
les médecins de l'Antiquité et de la Renaissance, y compris des gens comme Ambroise Paré, célèbre...
Grand chirurgien de la Renaissance.
Celui dont on sait qu'il cautérisait les plaies. C'est la seule chose qu'on sait de lui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à la fin de son traité, d'un de ses traités sur... La grossesse et l'accouchement, il explique comment ça se passe. Il y a même quelque chose sur la layette. Ils sont tous évertués à écrire des choses sur la layette, ce qui indique que l'enfant est un être pas complet, qu'il faut compléter, terminer par un geste social qui est celui du vêtement. Mais il faut savoir que tous ces grands médecins n'ont probablement jamais tenu de bébé dans les bras et certainement pas assisté à des accouchements considérés trop sales, trop physiques pour eux.
Qui étaient ces sages-femmes qui mettaient au monde nos ancêtres? D'où venaient-elles? Comment les recrutait-on? Comment est-ce qu'on les formait? Nous voyons tout ça dans un instant.
Et avant le récit d'Au cœur de l'histoire, les repères autour de la naissance dans l'histoire, très justement, avec vos invités aujourd'hui, Franck sur Europe 1, Jean-François Lemoine, qu'on ne présente plus, c'est le médecin de la station, et Carole Mann, qui est historienne de l'art et sociologue, auteur de Chérubins et Morveux, Bébé et Layette à travers le temps, chez Pygmalion.
Vous nous disiez, Carole Mann, justement, juste avant la petite interruption publicitaire, que cette affaire d'accouchement était une affaire de femmes, essentiellement. Alors d'où venaient les sages-femmes? Est-ce qu'on les formait? Est-ce qu'il y avait des écoles de sages-femmes au 15e, au 16e siècle?
Les sages-femmes, j'allais dire, étaient formées sur le tas. Là où j'ai pu voir comment ça se passe, c'est en Afghanistan, c'est un pays que je connais bien.
Ça n'a pas finalement beaucoup changé là-bas.
Et effectivement, j'ai vu comment ça se passait. Ce sont des matrones, si vous voulez, des femmes qui ont une expérience, parce que les femmes accouchaient quand même d'un grand nombre d'enfants. Il en mourait la majorité. Donc ce sont des femmes qui ont de l'expérience, qui elles-mêmes ont accouché et qui ont accouché leur belle-fille et qui accumulent une certaine expérience. Alors, il y a des... Bon, d'abord, leur propre connaissance, donc elles peuvent s'improviser sages-femmes, si vous voulez, simplement par leur expérience, mais en même temps, parce que l'accouchement est un phénomène collectif, toute la communauté participe, il y a quand même un capital de connaissances.
Eh oui.
Certains gestes, certaines... le recours à certaines plantes et ainsi de suite pour aider la parturiente. Et c'est un savoir empirique accumulé. Cependant, quand même, c'est devenu une profession. Parce qu'au XVIIIe siècle, si je peux en parler maintenant,
au XVIIIe siècle,
il y a eu quelqu'un d'extraordinaire sous Louis XV qui s'appelait Madame de Coudray.
Angélique du Coudray.
Oui, qui est un personnage remarquable, qui a fabriqué une espèce de poupée qui représente une parturiente et un fœtus. Elle en a fait plusieurs exemplaires.
Elle fait comme un mannequin en quelque sorte, c'est ça?
Oui, je crois qu'il existe un exemplaire quelque part dans un musée français. Je ne sais plus où c'est, mais j'ai vu des illustrations. Alors, elle en a fait plusieurs. Elle appelait ça sa machine. Elle l'a emmenée à travers la France pour former des sages-femmes.
Pour donner des cours,
oui, pour donner des cours, effectivement. Et pour remonter le niveau des soins. Et ça a été très effectif.
Alors, jusqu'au milieu du dernier siècle, là, jusqu'à la dernière guerre mondiale, cette affaire d'accouchement restait du domaine des femmes, mais en tout cas dans les milieux plus populaires. Parce que lorsqu'on monte dans la société, notamment lorsqu'on arrive chez les princes et chez les rois, on se rend compte que assez tôt, dès le début du XVIIe siècle, les médecins et chirurgiens ordinaires de Sa Majesté se mêlent de la question et l'on va voir les premiers médecins accoucheurs. La médecine s'est toujours intéressée à l'accouchement, Jean-François Lemoine, mais les médecins n'y sont venus que tard,
oui,
en quelque sorte.
D'un point de vue théorique, parce que vous savez, un accouchement, c'est quelque chose d'assez naturel et d'assez simple. J'ai fait un accouchement quand j'étais interne, j'avais jamais accouché. Et au moment où l'accouchement se fait, j'étais tellement terrorisé.
Ça s'oublie pas, j'imagine.
J'étais tout seul. Je me disais, comment je mets mes mains? Bon, en fin de compte, on met ses mains normalement pour pas que le bébé tombe et pour le sortir. Donc, ça veut dire que c'était un acte naturel des femmes. C'est quand ça se passait mal que là, ça devenait tragique. Et les médecins s'en occupaient pas. 1750, deux inventions importantes, les sages-femmes et les forceps.
Mmh. Qui changent complètement, qui permettent,
si vous voulez, le problème, c'est quand vous voyez un bébé qui va, au moment de l'accouchement, il y a trois solutions, hein. Soit on voit le crâne, on sait que ça va bien se passer, soit on voit les fesses, on sait qu'il va falloir le retourner, et soit on voit le visage, et là, on sait que c'est problème. Donc, les forceps, avant, on savait pas comment aller chercher ces enfants qui allaient mal. Donc, les forceps, c'est une invention, qui a permis de tirer le bébé. Et ça, c'est 1750.
Hein. On parlait de la plus célèbre des sages-femmes, Angélique du Coudray. Il faudrait parler du plus célèbre médecin accoucheur, François Morisseau.
Oui, François Morisseau était l'accoucheur des maîtresses de Louis XIV. Mmh. Alors, il a imposé l'accouchement sur un lit à l'horizontale, parce que jusqu'à là, les femmes accouchaient souvent assises, accroupies. En fait, on leur laissait une liberté. Il y avait des chaises d'accouchement, un peu comme des chaises percées. Marie de Médicis a accouché sur...
Des chaises de travail,
Des chaises de travail, oui. Et Marie de Médicis a accouché sur une chaise de ce genre-là. Et bon, c'était assez courant, mais il y avait une plus grande liberté. Et là, il y a une régulation des naissances et une certaine domination d'une façon de faire qui remplace la liberté accordée par les sages-femmes. Et il y a une rivalité entre les sages-femmes expérimentées et les médecins accoucheurs qu'on retrouve aujourd'hui dans les hôpitaux, parce que finalement, c'est pas l'accoucheur ou enfin l'obstétricien qui fait l'accouchement. C'est dans la majeure partie des cas, ce sont toujours les sages-femmes.
Alors, il y a dans les hôpitaux aujourd'hui un un acteur important de l'accouchement, c'est le papa. Oui. Pendant très longtemps, ce n'était pas le cas. Et en préparant cette émission, nous avons eu la surprise amusée de découvrir qu'en 1972 encore, un certain docteur Lepage, qui était interviewé ici sur l'antenne d'Europe 1, se déclarait tout à fait opposé à la présence des pères dans les salles d'accouchement. Voilà ce que ça donnait.
La principale de ces objections est le risque d'infection qui n'est certainement pas négligeable. Il ne suffit pas pour rendre cette présence anodine de revêtir le mari d'une blouse blanche, fût-elle stérile, car il risque d'enfreindre les règles d'asepsie qui doivent être absolues. Mais il y a aussi des objections d'ordre psychologique. Certaines mères ne tiennent pas à ce que leur mari assiste à l'accouchement. Il y a aussi des objections pratiques, car dans les grands services universitaires, où il y a beaucoup d'accouchements à 24 heures, où les locaux ne sont pas extensibles à volonté, où il y a déjà beaucoup de monde, la présence du mari est à peu près impossible.
La présence du mari est impossible. En tout cas, ce docteur Lepage n'a pas envie du tout que le mari soit là. Ce que vous nous disiez, Carole Mann, c'est que l'un des problèmes aussi, c'est le mari, évidemment, qui s'évanouit. Alors, risque d'infection, nous dit également ce praticien. La grande différence, la révolution, on va dire, dans l'histoire de l'accouchement, c'est l'asepsie, en fait. Ça va être Pasteur.
Quand on réécoutera mes émissions, ça sera moins tragique dans 20 ans. Ben oui, je vais dire, pour moi, les grandes dates de pour la femme...
On peut dire dans 40 ans, même.
Oui. C'est d'abord l'eau chaude hein, qui a fait passer de la préhistoire, de la caverne à quelque chose d'un peu plus social. Et puis Pasteur. C'est Pasteur qui a changé. C'est Pasteur qui s'est aperçu que les femmes mouraient plus à l'hôpital. C'est Pasteur qui a été expliqué à tous les accoucheurs qu'ils passaient d'une salle d'autopsie à un accouchement et que bien évidemment, ils amenaient ces microbes que personne ne connaissait et faisaient des infections dont mourait la femme. C'était tragique d'être enceinte. À une certaine période, quand les infections commençaient à envahir les hôpitaux, c'était un acte de mort. Donc Pasteur est arrivé en expliquant, dites les gars, il y a un infiniment petit.
Il y a une phrase qu'on entendait et qu'on voit bien entendu dans les romans, dans les films, sauver la femme ou sauver l'enfant.
Alors ça, pendant très longtemps, pendant longtemps, on a sauvé, les rois faisaient sauver les bébés, par exemple.
Oui, pour cause. Oui.
Vous verrez, quand vous allez raconter la césarienne, c'était ça, la césarienne.
Alors la césarienne, on va y venir dans un instant, c'est le récit d'aujourd'hui. Le récit est maintenant à 13h30, pour essayer de permettre à nos auditeurs de se repérer dans cette
Exactement.
Nouvelle formule. Mais avant ça, nous allons parler des bébés, parce que c'est une chose que d'accoucher ces dames. Ensuite, il faut s'occuper des nourrissons. Comment étaient-ils ces nourrissons? Comment est-ce qu'on s'en occupait? C'est ce que nous voyons dans un instant.
Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse. La voilà. Demain, le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller.
Fais dodo.
Pourquoi tu dors pas? Demain il faut que je me lève tôt, j'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier.
En attendant le récit d'au cœur de l'histoire sur Europe 1, Bénébar nous chante une berceuse. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Lemoine, médecin d'Europe 1, qui présente Pourquoi Docteur le dimanche de 13h à 14h. Également avec nous, Carole Mann, qui est historienne de l'art et sociologue, auteur de Chérubin et Morveux, Bébé et Layette à travers le temps, chez Pygmalion Franck.
Alors nous avons bien compris que la première grande révolution dans l'histoire de l'accouchement, elle intervient extrêmement tard avec Pasteur et avec l'asepsie. La deuxième grande révolution, c'est l'analgésie. Tu enfantes enfantera dans la douleur, disaient les Écritures.
Contre l'avis de la religion, on a commencé à faire la péridurale, qui consiste à anesthésier le bassin de façon que la femme accouche sans douleur, et ça a été énorme. Enfin bon, pour nous les hommes, ça ne changeait pas grand-chose, mais c'était tellement terrible les douleurs d'accouchement que là aussi, c'est une avancée majeure.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, Jean-François Lemoine, c'est que depuis quelques années, il y a beaucoup moins de risques de mortalité dans les accouchements. C'est récent, ça aussi.
Oui, c'est récent. Si on prend, on a 5 fois moins de morts qu'en 47. Ça reste quand même encore 75 à 80 femmes par an qui meurent.
Environ 80 femmes qui, en France, chaque année, meurent.
Et le chiffre change pas beaucoup depuis une trentaine d'années parce que l'âge des femmes qui accouchent augmente. Et donc, c'est des grossesses un petit peu plus difficiles. Mais au XVIIIe siècle, c'était 100 fois plus. Et là, c'était un tribut énorme que payait la femme à la vie de l'humanité. Donc, c'est important. Et aussi, chose juste un peu très importante, la surveillance de la femme enceinte avec les échographies et tout ça, les diagnostics prénataux, ça a complètement changé le profil.
Alors, Carole Mann, j'ai entre les mains votre ouvrage, Chérubins et Morveux, donc aux éditions Pygmalion. Vous consacrez une introduction, en quelque sorte, à l'accouchement, mais tout le reste parle des bébés, des nourrissons, comment on conçoit l'enfant. Ce que vous montrez, c'est que, d'abord, il y a chez toutes ces femmes qui entourent la nouvelle maman, il y a la volonté de sexuer l'enfant, en quelque sorte. On établit très tôt une distinction entre petit garçon et petite fille, c'est ça?
Oui, d'abord... L'idée centrale, là, c'est que le bébé qui naît est un être incomplet. C'est un animal qu'il faut socialiser. C'est pourquoi je consacre vraiment beaucoup de pages à l'emmaillotement, parce que le bébé était emmailloté pendant à peu près 2000 ans, et le sont toujours dans de nombreuses parties du monde, en Chine, en Asie centrale, les bébés sont emmaillotés. Et c'est François Morisseau qui a la clé, il dit il faut emmailloter.
Donc cet homme qui est le grand accoucheur sous Louis XIV.
Sous Louis XIV, qui n'a probablement jamais emmailloté un bébé, ni tenu un bébé dans les bras, je le souligne. Il dit il faut emmailloter les bébés pour empêcher qu'ils marchent à quatre pattes comme les autres animaux. Alors tout est dit là, parce que le bébé humain est un petit animal qu'il faut civiliser. C'est l'apport de la culture à la nature, et ce processus de civilisation passe par la sexuation et passe par le vêtement et passe par une foule de petits détails, mais qui commencent dès la section du nombril, du cordon ombilical. Alors, il y a encore, et je le cite, des instructions qui disent qu'il faut couper le cordon plus long pour les garçons, pour des raisons qu'on imagine, que pour les filles. Un tas de choses comme ça, emmailloter d'une certaine façon les bébés, plus serrer les garçons, moins serrer les filles autour des hanches pour qu'elles puissent avoir un bassin plus large. On prépare déjà la future mère.
Moi, je me suis intéressé plus aux pouponnières royales qu'à la connaissance dans les fermes du Bas-Berry, mais donc je ne connais pas tout le sujet. Mais ce que je sais clairement, c'est qu'à partir du XVIe siècle, dans les milieux très, très élevés de la population, on attache à tous les préceptes d'éducation, mais là je ne parle pas d'éducation de jeunes enfants, je parle de l'éducation des tout petits nourrissons, une importance considérable. C'est le cœur même de tout un savoir. On attache beaucoup d'importance aux premières années de la vie, effectivement pour façonner l'être qui au départ est considéré comme un petit animal.
Hein, c'est ça. Les premiers jours, c'est extrêmement important parce qu'il faut modeler le corps. Et ça se fait par l'emmaillotement, par des massages, par des bonnets qui déformaient la forme du crâne. Et jusqu'à la fin du 19e, on a continué à le faire, et les ethnologues français qui travaillaient dans les campagnes reconnaissaient les régions d'où venaient les personnes qui voyaient, même les militaires de la Première Guerre mondiale, à cause de la forme du crâne, à cause
incroyable.
Des bonnets.
C'est-à-dire que le bonnet de chaque région façonnait le crâne même des individus, Jean-François Lemoine.
C'est important de le faire, il faut savoir que l'homme est le mammifère le plus mal fini.
Parce
qu'à la naissance, un bébé ne peut rien faire.
Il est presque encore en gestation.
Voilà, donc toute cette histoire a été faite pour que ce mammifère puisse rejoindre un petit singe et beaucoup plus fonctionnel.
Alors la médecine ne s'intéresse à l'enfant qu'assez tard. La pédiatrie, c'est la fin du XVIIIe siècle, tout simplement.
Oui, tout ce qui est concerné les femmes et les enfants, ça n'intéressait pas les hommes. Il faut être clair, donc la médecine. Mais on va y revenir, vous savez que la médecine va devenir exclusivement féminine dans pas longtemps.
Ah oui?
Bah oui, vous savez qu'il y a plus d'étudiants et plus de médecins femmes que de médecins hommes, donc la femme va reprendre ses droits.
Après tout, c'est peut-être dans l'ordre des choses. Alors, Carole Mann, dites-nous un mot de la façon dont on traitait la santé des enfants, et notamment comment le rapport à la douleur des enfants. Pendant très longtemps, on laissait un enfant pleurer sans problème, par exemple.
Jusqu'à récemment, oui. on laissait pleurer les enfants. Je me souviens, j'ai des enfants qui ont autour de 25 ans. On disait même, laisse-les pleurer, c'est bon pour les poumons. Et jusqu'à récemment, des dernières 15 années, on a commencé à travailler sur l'anesthésie des enfants pour les végétations, pour des choses comme ça, parce que la douleur des enfants n'était pas prise en compte. C'est extrêmement présent.
Ils mouraient, il n'y a encore pas très longtemps, des enfants à qui on enlevait l'appendice, plus exactement, mouraient de douleur.
Vous vous rendez compte,
il y a pas très longtemps.
Effrayant.
Merci beaucoup à vous deux, Carole Mann, Chérubins et Morveux, Bébé et Léguette à travers le temps, c'est aux éditions Pygmalion. Merci Jean-François Lemoine, on va vous entendre très souvent à ce micro. Dans un instant, nous en arrivons à notre récit.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit consacré aujourd'hui sur Europe 1 à la première césarienne de tous les temps, Franck.
Le paysage est celui d'un conte de Grimm. Le creux d'une vallée de Suisse alémanique, couverte de neige, semée de petits chalets pimpants dont les cheminées fument dans l'air glacial de cet hiver 1500. Il se fait tard, il fait même grand nuit ce soir-là, dans le village de Siegershausen. Et pourtant, les bougies sont toujours allumées dans la maison des Nouffer, où règne, disons-le, l'angoisse. Jacques Nouffer, dans son... Alors, il faut savoir qu'il est châtreur de porc, ce monsieur.
C'est une fonction.
C'est un métier. Jacques Nouffer déambule au milieu d'un groupe de sages-femmes et de ventrières, le visage déformé par la détresse, les yeux toujours rappelés vers le lit où sa femme se tord de douleur. Cela fait des heures maintenant que le travail de l'accouchement a commencé. Elisabeth, la femme de Jacques, essaie de mettre au monde leur cinquième enfant. Elle essaie, mais elle n'y arrive pas. L'enfant est trop gros, semble-t-il. Le bassin de la mère est trop étroit. Les heures ont passé, la douleur se fait insupportable. Elisabeth est dans un état lamentable. Elle souffre, ruisselante de sueur, agitée par les contractions. Elle crie et pleure et supplie. Elisabeth va mourir. Or cela... Jacques Nouffer ne peut le supporter. Mourir, elle. Il ne peut pas détacher son regard de ses longues mèches blondes, à présent trempées, collées au visage et au cou de la jeune femme. Cette femme, il faut dire qu'elle est tout pour lui. Elisabeth occupe tout l'espace de sa vie, une vie qu'on peut imaginer évidemment très rude par ailleurs et très austère. Que son épouse adorée vienne à rendre l'âme et Jacques sombrera, à ça il en est certain. Il titube de douleur. Quand je dis de douleur, sa femme est dans la douleur physique. Lui, il titube de douleur morale, Jacques Nouffer. Il s'approche du lit une fois de plus. Il s'agenouille au chevet de son Elisabeth. Il prend sa main trempée de sueur dans les siennes et il murmure des petits mots de réconfort ou des mots bien dérisoires, évidemment. Terrible sentiment d'impuissance devant une maladie. Mais non, ce n'est même pas une maladie. Ceux qui ont dû subir la lente extinction d'un être cher comprendront ce que je veux dire. Ce sont des moments, bien sûr, dont on a l'impression qu'ils ne sont même pas supportables. Alors, quoi faire ? Tous les soigneurs, je n'ose dire médecins de la vallée, ont défilé au chevet d'Elisabeth. Et puis il y a eu les guérisseurs, évidemment, et même un chirurgien spécialisé dans l'extraction des pierres vésicales. Or, aucun n'a trouvé de réponse. La mine allongée, circonspecte, la plupart ont fini impuissants par hocher la tête en silence avant d'abandonner la pauvre femme à sa torture. Jacques n'en peut plus. Leur nullité collective le rend fou. Il s'est assis maintenant, il est comme recroquevillé sur un tabouret devant l'âtre. Le pauvre homme se tient la tête dans les mains. Il sait bien, comme tout le monde à cette époque, nous sommes en 1500, je vous le rappelle, il sait qu'un accouchement est toujours risqué et que chaque femme, pour donner la vie, risque à l'époque de trouver la mort. Chaque femme peut-être, mais pas Elisabeth, pas son Elisabeth. Jacques Nouffer aime sa femme. Il l'aime d'un amour immarcescible. Depuis le premier jour, elle est, pourquoi se le cacher, elle est son immense, elle est son unique raison de vivre. Le malheureux peut cacher ses larmes, mais il ne peut pas cacher les sanglots muets qui le secouent à présent. Une des femmes qui sont là, qui sont venues assister la parturiente, s'approche, elle pose une main consolatrice sur son épaule, elle le serre, il se redresse, il renifle et dans un soupir. « Non, murmure-t-il, non pas elle, je ne la laisserai pas mourir. » En cet instant, Jacques Nouffer vient d'avoir une idée. Puisque cet enfant est trop gros pour passer, puisque l'issue lui est refusée, pourquoi ne pas aller lui offrir un autre passage? Pourquoi ne pas le délivrer en même temps que sa mère? Je vous l'ai dit, Jacques Nouffer est châtreur de porc. Il connaît l'usage des lames et des couteaux. Vous m'avez compris, son idée, totalement insensée à l'époque, son idée révolutionnaire est d'ouvrir purement et simplement et d'ouvrir le ventre de sa femme. Enfin, répond la doyenne des ventrières qui est là à côté, mais vous n'y pensez pas. Nouffer, ce que vous proposez relève de la boucherie. Juste une petite fente bien propre pour libérer cet enfant et soulager ma femme. Laissez faire les gens compétents. Alors sauvez-la, s'insurge l'homme éploré. Le silence de la femme trahit son impuissance. D'ailleurs, cette impuissance générale est évidente. C'est la solution, je le sais, j'en suis sûr. Allons enfin, la pauvre n'y survivrait pas, puisque de toute façon vous l'avez condamnée. Les sages-femmes qui ont entendu l'échange préfèrent détourner le regard. En Jacques Nouffer, contre toute raison, un petit espoir vient de naître. Il regarde une fois encore sa petite, sa toute petite Élisabeth. Elle paraît sur le point de perdre connaissance. Alors le châtreur de porc revêt sa pelisse, son chapeau. Il sort dans la nuit enneigée. Il s'éloigne à grands pas en direction de la maison du maire de Ziegershausen. Ai-je besoin, à ce stade, de préciser que Jacques Nouffer s'apprête à réaliser, dans des conditions hautement périlleuses et pour la toute première fois de mémoire de médecin, qu'il s'apprête donc à réaliser ni plus ni moins qu'une césarienne. Alors la tradition voudrait que ce mot « césarienne » fasse référence à la naissance chirurgicale en l'année 100 avant notre ère de Jules César lui-même. Trop divin Jules César aux yeux de Pline l'Ancien pour être né comme tout le monde. Il s'agit bien entendu d'une légende, ça. Une légende qui n'est pas sans rapport avec certains épisodes de la mythologie et qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Certes, certains peuples anciens, les Étrusques, les Romains notamment, ont procédé à l'occasion à des mises au monde abdominales, mais c'était sur des femmes mortes dont on voulait pouvoir enterrer le fœtus. Plus tard, au XIVe siècle, on commence à procéder à des césariennes post-mortem qui visent à sauver des enfants. Mais l'opération sur une femme vivante n'est pas envisagée avant la fin du XVIe siècle. Et là, nous nous sommes en 1500. Le premier ouvrage à ce sujet, qui est intitulé « Enfantement césarien », n'est publié qu'en 1581. Le grand praticien Rousset, dans cet ouvrage, explique qu'avant l'opération, la vessie de la femme doit être vidée, qu'il convient d'employer pour les incisions un rasoir à pointe, écrit-il, et un rasoir à bouton, qu'il ne faut en aucun cas suturer l'utérus, mais veiller à le drainer en mettant en place un anneau de cire, on appelle ça un pessaire. Encore, l'opération va-t-elle rester très dangereuse et pendant longtemps, et jusqu'au XIXe siècle, elle va rester hautement périlleuse du fait d'un double risque d'hémorragie et d'infection, avec un taux de mortalité accablant, au-delà de 85%. Donc c'est une opération extrêmement rare, même jusqu'à une époque assez récente. C'est dire... Si l'initiative en l'an 1500 d'un châtreur de porc de Turgovie, si cette initiative relève de l'acte désespéré, pour ne pas dire de la démence. Jacques Nouffer n'en démord pourtant pas. Il discute pied à pied depuis de longues et précieuses minutes maintenant avec le maire qu'il a tiré de son sommeil. « Faites-moi confiance, implore-t-il, donnez-moi votre permission. » Alors est-ce que c'est une caution morale que Nouffer vient chercher auprès des autorités de la commune ou bien tout simplement la garantie qu'on ne l'accusera pas de meurtre au cas où les choses tourneraient mal? Et comment pourrait-elle bien tourner? En tout état de cause, il semble que le consentement lui ait été délivré. Je n'ose imaginer l'état d'esprit de Jacques Nouffer, muni de cette bénédiction des autorités civiles. Je n'ose imaginer son état d'esprit quand il a repris toujours dans la neige et le vent le chemin de son foyer. Vous pensez un peu à la détresse de cet homme à la perspective de choisir lui-même une lame bien aiguisée avec laquelle il va ouvrir le ventre de la femme qu'il aime plus que tout dans l'espoir minime de la sauver ou tout au moins de prolonger un peu sa vie, à moins qu'il n'ait pensé à abréger ses souffrances.
Sur Europe 1 du concerto pour deux mandolines d'Antonio Vivaldi. Restez à l'écoute de votre radio. La suite du récit de Franck sur la première césarienne de tous les temps, c'est juste après ça.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Nous sommes toujours en l'an 1500, au cœur de la toute première césarienne, Franck.
Ça a lieu donc dans la Suisse alémanique, pour les auditeurs qui nous rejoindraient. On est dans une vallée enneigée, en plein milieu de cet hiver 1500. Et voilà qu'un châtreur de porc, c'est son métier, donc quelqu'un tout de même habitué à manier les haleines et les couteaux et les lames de toutes sortes. Voilà que pour essayer de sauver cette femme qu'il aime plus que tout, qui est son épouse, et pour peut-être sauver l'enfant qu'elle porte aussi, il va essayer cette opération qui, à l'époque, impressionne les plus grands chirurgiens. Personne ne pratique encore la césarienne à cette époque. Alors, hélas pour nous, à moins que ce ne soit une chance, les annales médicales n'ont pas conservé la relation de l'acte inouï, de cet acte d'amour désespéré accompli par notre Jacques Nouffeur dans cette nuit de l'hiver 1500. Comment est-ce que l'opération s'est déroulée? Jacques était-il seul ou est-ce qu'on l'a assisté? Est-ce qu'il s'est, comme le prétend la légende, entraîné d'abord sur des truies et qu'il serait allé jusqu'à éventrer plusieurs animaux pour se faire la main? Force m'est de reconnaître que la tentative de Jacques Nouffeur, si elle fait date dans l'histoire de l'obstétrique, a laissé en vérité fort peu de traces concrètes. Ce qui compte, me direz-vous, c'est le résultat. Or, si l'on en croit la chronique, le résultat, contre toute attente, contre toute l'évidence statistique, le résultat va se révéler positif et doublement positif. Non seulement Jacques a permis la naissance de son enfant, mais il a sauvé la vie de sa femme. Alors, comment expliquer un tel exploit ? Les spécialistes aujourd'hui sont à peu près unanimes à considérer qu'Elisabeth Nouffeur présentait en vérité un cas de grossesse abdominale, qui se caractérise donc par l'implantation du fœtus à l'intérieur de la cavité abdominale. C'est cette coïncidence inouïe qui d'une part expliquerait sans doute les problèmes qu'elle avait pour accoucher, mais d'autre part qui explique qu'après avoir été opérée, elle ait pu survivre et finalement récupérer. Ça n'enlève rien, évidemment, au caractère héroïque de l'acte accompli par son mari. Héroïque ou dément, ça je vous laisse le soin d'en juger. À moins qu'on ne parle tout simplement d'un exploit, parmi tant d'autres, inspiré par l'amour. Elisabeth Nouffeur, née Alépachine, j'aurais dû vous dire comment elle s'appelait, cette petite Elisabeth, vivra longtemps encore grâce au courage désespéré de son mari. Quant à l'enfant du miracle, eh bien, la tradition veut qu'il ait été vigoureux, sain et assez résistant pour profiter de l'existence, chose assez rare par ailleurs en ce XVIe siècle impitoyable, pour vivre jusqu'à l'âge de 77 ans. Je suis très heureux d'accueillir à ce micro Bertrand Dekkers, qui est l'auteur des folies amoureuses qui ont fait l'histoire, un ouvrage plein d'histoires extraordinaires et au sein duquel j'ai puisé donc cette histoire de Jacques Nouffeur, dont je vous avoue qu'avant de lire l'ouvrage de Bertrand Dekkers, je ne la connaissais pas moi-même. Ah, c'est une belle histoire. Je me suis calé littéralement sur son récit pour faire le mien. Bonjour Bertrand Dekkers.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être ici. Vous vous êtes intéressé à cette histoire parce qu'elle est une première médicale, parce qu'elle est un exploit de l'amour, parce qu'elle est hors du commun, tout simplement.
Voilà, parce qu'elle est hors du commun, parce qu'effectivement, c'est un exploit de l'amour, bien plus que toutes les raisons et tout le côté médical que vous venez de développer ici. Ce qui m'a intéressé, je pense, là où j'ai voulu emmener le lecteur, aujourd'hui, vos auditeurs, c'est cet incroyable acte amoureux, probablement la plus grande folie peut-être faite par amour. Il y a très très peu de chances que cette pauvre Elisabeth s'en sorte. Le miracle opère effectivement, et c'est l'amour. C'est aujourd'hui 4-5 siècles plus tard, la césarienne continue à être opérée et que les techniques ont grandement évolué. C'est à ce châtreur de porc que l'on doit effectivement cette invention peut-être de la césarienne.
Vous écrivez, jusqu'à la fin du 19e siècle, la césarienne reste une intervention d'exception, pratiquée uniquement lorsque le bassin est si étroit que la main de l'accoucheur ne peut y être introduite ou que le vagin est rempli de tumeurs. La suture de l'hystérotomie c'est-à-dire une incision du muscle utérin qui permet de juguler l'hémorragie. Cette suture, développée par Max Zenger et accomplie pour la toute première fois par Lebas en 1769 avec un fil de soie à l'époque, cette suture permet de faire fondre le taux de mortalité maternelle à 10%. Mais, ajoutez-vous, il faudra attendre les débuts du XXe siècle, le fil de suture résorbable, l'anesthésie générale et surtout l'asepsie pour que ce taux devienne acceptable. À partir des années 1950, la transfusion sanguine et les antibiotiques entraînent l'effondrement du risque vital maternel. En 30 ans, le nombre de césariennes passe de 4% à plus de 16%. On peut dire même qu'aujourd'hui, la césarienne est devenue presque une opération courante. Oui, certains la recommandent d'ailleurs, certains obstétriciens.
Oui, absolument. On sait même d'ailleurs que certains gynécologues travaillent de pair avec le papa et la maman en fonction de leur agenda pour savoir à quel moment le plus propice devra d'arriver l'enfant.
Là, vous êtes de mauvaise langue. La césarienne datait-elle de Jules César? Il semble que non. Hein. C'est une pure légende. Ça,
il semble effectivement que ce soit Pline l'Ancien qui se soit un petit peu laissé aller dans des envolées lyriques.
Alors, nous venons de vivre une des folies amoureuses qui ont fait l'histoire. Il y en a bien d'autres dans votre ouvrage. Et avec vous, Bertrand Descartes, nous y revenons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité du jour sur Europe 1, Bertrand Descartes, qui est écrivain, journaliste et spécialiste du Gotha.
Les folies amoureuses qui ont fait l'histoire, c'est aux éditions Point de Vue, donc cette compilation, non c'est pas le mot, ce florilège devrais-je dire, de grandes histoires réunies par Bertrand Descartes. Bonjour, nous dit Philippe, un exemplaire de la machine de Madame Coudray dont on parlait tout à l'heure,
tout à l'heure
ce mannequin,
oui.
Se trouve au musée Flaubert de Rouen. Eh bien voilà, merci Philippe de cette indication. Il ne faudrait pas oublier, précise par ailleurs Hubert, le docteur Semmelweis. Et effectivement, ça fait partie des grands spécialistes de la question. Alors on va s'éloigner un peu, si vous le voulez, Bertrand, du domaine strict de l'obstétrique et de l'accouchement pour évoquer un certain nombre de ces grandes folies amoureuses qui ont fait l'histoire. Alors il y en a beaucoup, hein, depuis la Calas jusqu'à Marie Bonaparte, en passant par Alexandra Fiodorovna et même Bernadette Soubirou, j'en passe. J'en ai sélectionné certaines. Il y en a une qui est bien sûr fascinante entre toutes, c'est celle de la construction du Taj Mahal, ce monument peut-être le plus beau de toute la planète, construit par amour, comme vous le racontez très bien.
Oui, effectivement, c'est peut-être la plus belle déclaration d'amour d'un point de vue esthétique, du point de vue de la construction. Le Taj Mahal, c'est inouï. À l'heure actuelle, c'est un édifice qui est encore inégalé du point de vue de la construction. Ce sont des tonnes de marbre. C'est un chantier qui dure 22 ans. Ce sont des milliers, voire peut-être des millions d'ouvriers qui y travaillent et qui y perdent la vie. Mais
on est à l'apogée de la cour moghole en Inde.
Hein. Absolument.
Et c'est Shah Jahan qui va commander cette espèce d'extraordinaire mausolée pour son épouse, donc pour celle qu'il aime.
Voilà, qui meurt en donnant la vie à son 14e enfant, juste avant de mourir.
On est toujours dans les accouchements difficiles.
Absolument. Oui, exactement, ouais. 14e.
Elle a le temps de lui faire promettre deux choses. Premièrement, elle lui demande « promets-moi de ne jamais te remarier ». Il promet, et ensuite elle lui dit « construis-moi un mausolée qui soit une preuve et qui montre au monde entier l'incroyable lien amoureux qui nous unissait. » Alors l'empereur va relever le défi, effectivement. Il ne va pas lui faire construire un mausolée, mais un palais un peu d'inspiration divine, puisqu'il est accoudé au balcon du palais impérial lorsqu'il voit des lignes, des pointillés qui se forment à l'horizon. Tout y est, les lignes se forment, tout y est. Le palais, quasiment au millimètre près, est en train de se construire.
Il va quand même falloir l'intervention d'un architecte, et
pas
des moindres.
Et pas des moindres, effectivement, c'est Lahori, un architecte iranien qui est recruté. L'histoire est drôle, elle est un peu anecdotique également. Il est subjugué par les plans que lui remet Lahori, mais il se dit, cet architecte ne pourrait-il pas faire mieux? Quand est-ce qu'on sait qu'un artiste a été jusqu'au bout de lui-même, qu'il a donné tout? Il ne veut pas confier ce projet à un architecte qui ne comprenne pas, qui ne ressente pas sa douleur. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'empereur décide de séquestrer son épouse. Comme ça, dit-il, tu vas reconnaître la douleur, tu vas connaître la douleur que j'ai. Mais la douleur n'est pas vraiment semblable à celle qu'il a, puisque lui a perdu sa femme. Donc qu'est-ce qu'il fait?
Elle est seulement séquestrée, celle de l'architecte.
C'est cela. Il l'a fait tuer. Il l'a fait égorger. Il lui dit, désormais, tu comprends ma douleur. Vas-y, rends-moi un chef-d'œuvre.
Je ne sais pas si c'est un conseil à donner à ceux qui ont de belles maisons à faire construire aujourd'hui. C'est une histoire tout à fait extraordinaire que vous nous racontez. Il y en a beaucoup d'autres. On va parler dans un instant des amours de Racine, notre cher et grand poète Racine, et de Marquise du Parc. Alors ça, c'était un personnage assez retors, assez incroyable. Elle était sans doute une des plus belles femmes du XVIIe siècle. Et du reste, lorsqu'on a porté leur histoire à l'écran, c'est Sophie Marceau, rappelez-vous, qui incarnait le personnage de Marquise. D'ailleurs, ça donnait à peu près cette musique-là.
Sur Europe 1 de Rondeau de la Gloire, extrait de la BO de Marquise, un film de Vera Belmont de 97 avec Sophie Marceau, Franck vous l'a dit, sur une musique composée par Jean-Baptiste Lully tout de même.
Cette Marquise, elle avait d'abord été l'épouse d'un comédien de la troupe de Madeleine Béjart, hein, ce qu'on a appelé un peu à tort la troupe de Molière, mais enfin je ne vais pas rentrer encore dans cette vieille polémique. Et puis, elle devient la maîtresse de Racine. On peut dire que les deux tempéraments sont hors du commun, ce ne sont pas n'importe qui ces deux-là.
Absolument, Marquise et Racine, ce sont deux ambitions dévorantes, de fulgurance qui se rencontrent en quelque sorte. C'est Racine qui est un dramaturge, qui rêve de monter. Et c'est Marquise, la très belle Marquise, qui connaît son talent, qui connaît sa beauté, qui a été remarquée par Corneille, qui a été draguée par Jean de La Fontaine, qui dit non à chaque fois, qui joue de ses charmes et qui tombe amoureuse de Racine. Effectivement, donc c'est aussi une très belle histoire d'amour. Racine lui écrit Andromaque, elle devient un peu sa muse, l'histoire est très belle.
Est-ce qu'elle ne deviendra pas un jour sa victime ? Ça, ouais. C'est l'amateur d'énigmes historiques en moi qui parle, Bertrand. Est-ce que finalement, on ne peut pas dire que Racine, sur la tête de Racine, plane le soupçon d'un crime ?
Absolument, puisque lorsque Marquise rencontre Racine, elle est encore une petite comédienne, pleine de talent, mais une petite comédienne, disons. Il lui écrit Andromaque, et avec Andromaque, elle devient une star. Elle devient aussi connue qu'une Marion Cotillard à l'heure actuelle. C'est l'étoile montante. Racine, dit-on, ne supporte pas d'avoir donné naissance à ce génie, d'avoir donné naissance à cette star. Il lui dit, Marquise, tu es née par ma propre volonté. Tu es née sous ma plume, sous le frisson de mes vers. Voilà, alors... Effectivement, enfin, on dit qu'il aurait préféré voir mourir Marquise que la laisser partir dans d'autres bras.
Quand on parcourt votre ouvrage, on se dit que finalement, l'amour est à l'origine de bien des exploits. Nous avons vu Jacques Nouffer pratiquer la première césarienne pour sauver sa femme. Nous avons vu un sultan, enfin en tout cas un roi moghol, faire tuer la femme de son architecte pour rendre un hommage à la mesure de ce qu'il avait promis à celle qu'il avait tant aimée. Nous voyons donc Racine, peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas envie que le standard explose dès ce midi, peut-être à l'origine d'un crime contre la belle marquise. C'est tout à fait, quand je dis la belle marquise du Parc, oui. pas celle de
oui,
Molière.
On est en droit de te poser la question.
Ces folies amoureuses sont innombrables. Il y en a peut-être une en apparence plus neutre que les autres et qui pourtant est plus forte encore et plus profonde, c'est lorsque la veuve Clicquot, comme son nom l'indique, décide de reprendre elle-même les affaires de son défunt mari.
C'est une sublime histoire. Elle a 26 ans, imaginez, elle devient veuve d'un mari qu'elle aime éperdument, François-Marie Clicquot. Et là, elle promet solennellement sur la tombe de son époux qu'elle va continuer à faire vivre son nom. Alors, le pari est brillamment réussi, puisque près de 3 siècles plus tard, non seulement le nom de la veuve Clicquot existe encore, mais il fait partie des fêtes les plus pétillantes, si j'ose dire, entre guillemets, du globe à l'heure actuelle.
Oui, elle a eu la notion, avant bien du monde, elle a eu la notion du glamour, la veuve Clicquot. Et c'est notamment, elle a compris qu'il allait falloir, pour renforcer l'image de ce breuvage qui devait devenir le breuvage des rois, qu'il devienne celui des tsars. Elle envoie des émissaires carrément à la cour de Saint-Pétersbourg, ce qui à l'époque est complètement hallucinant.
Absolument, elle charge 1550 bouteilles, c'est tout ce qui lui reste, elle est prête à mettre la clé sous le paillasson, elle envoie 1550 bouteilles de champagne dans un vaisseau, alors les bouteilles sont canalisées entre de la paille pour ne pas qu'elles éclatent, il n'y a quasiment à nouveau aucune chance que ce fameux bateau arrive en Russie, pourquoi ? Parce que le tsar a tout simplement fait interdire les produits d'importation française puisque Napoléon
blocus,
vient
oui.
de déclarer la guerre, non seulement elle réussit, mais en plus l'un de ses émissaires parvient à introduire ses bouteilles à la cour du tsar, c'est à partir de ce moment-là là que l'histoire, la grande histoire de la veuve Clicquot commence et qu'elle le dit elle-même, l'argent coule à flot.
Et voilà. Ce qui est fascinant, c'est que c'est une histoire de femme, puisqu'elle-même aura une fille, qui elle-même a une fille. C'est une des très rares dynasties qu'on connaisse, dynastie de filles.
Camille et Rodin sur Europe 1, extrait de la BO de Camille Claudel, un film de Bruno Nuitel avec évidemment Isabelle Adjani et Gérard Depardieu.
Mais quel rapport, pouvez-vous me dire?
Mais quel rapport, Franck?
Eh bien, quel rapport, c'est que ça fait partie de ces folies amoureuses qui ont fait l'histoire. Aux éditions Point de Vue, Bertrand Descartes nous les raconte, ces folies. Et parmi elles, il y a effectivement les amours pour le moins contrariés du très grand sculpteur Rodin et de la non moins grande, comment dit-on, sculpteuse ou sculptrice Camille Claudel.
Sculptrice, oui. C'est une histoire d'amour encore très belle, mais très triste, celle-là. Camille Claudel et Rodin, c'est un peu l'amour blessure, c'est l'amour souffrance, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse de son maître, d'un maître qui tombe amoureuse de son élève. Seulement, Rodin est d'ores et déjà une star,
ah oui,
un maître.
C'est le plus grand artiste de son temps.
Voilà,
oui, oui.
Absolument.
Il est déifié de son vivant, lui.
Pour elle, on va dire Camille Claudel est une petite aventure, entre guillemets, alors que pour Camille Claudel, la chose prend une ampleur considérable. Alors, Claudel lui a appris l'art de sculpter, c'est vrai. Il lui a surtout appris l'art d'aimer, l'art de souffrir, en quelque sorte, puisque l'on sait que c'est ce sentiment qui va permettre à Camille Claudel d'atteindre ce génie absolu, cette précision dont les plus grands experts disent encore à l'heure actuelle qu'elle est inégalée. Donc, voilà, c'est l'histoire d'une sculpture, en quelque sorte, c'est l'histoire d'un amour, c'est aussi l'histoire d'une douleur.
Rodin s'est réapproprié un certain nombre des œuvres.
Oui,
de...
voilà. En plus, il y a un côté un petit peu financier aussi derrière, qui est un peu sombre. Et, pauvre Camille.
Et Camille, qui était évidemment la sœur du grand Claudel.
Paul, ouais.
Les folies amoureuses qui ont fait l'histoire de Bertrand Descartes, c'est aux éditions Point de Vue. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir
Merci
été
vous,
notre
Franck.
Invité du jour pour ce... pour cette première de la nouvelle formule d'Au cœur de l'histoire. J'espère qu'il y en aura de très nombreuses, que celle-ci vous a plu. Ça nous permet en tout cas à nous d'expliquer,
de poser les choses,
de fixer les cadres avant d'entrer dans le récit. Et ça, de ce point de vue, moi, ça m'a bien plu. Alors, je vous rappelle l'ouvrage de Carol Mann, bien sûr, Chérubins et Morveux, Bébés et Layettes à travers le temps. C'est aux éditions Pygmalion. Et puis, alors, sur les bébés et sur les enfants, comme on pourrait citer de référence, hein, je pense à ce film, L'Odyssée de la vie, le film de Niels Tavernier, vous savez, qui était passé sur, France,
sûr,
2,
sur France 2,
avec cette voix de Jacques Perrin extraordinaire et qui est disponible en DVD. Je pense à un très beau livre qui s'appelle L'épopée des bébés, une histoire de petits d'hommes de Béatrice Fontanelle et Claire Darcourt. Ça, c'est aux éditions La Martinière. Le livre a déjà 2 ans. C'était un livre particulièrement réussi. Et puis, puisque je vous parlais de Béatrice Fontanelle et de DVD, il y a ce DVD documentaire Bébé du monde de Béatrice Fontanelle, Claire Darcourt et Emmanuel Nobecourt également aux éditions Compagnie des Phares et Balises. Alors, il y aurait beaucoup de choses à vous citer. Le mieux, c'est de vous renvoyer sur notre site internet. Je vous rappelle que vous pouvez nous télécharger également, podcaster cette émission, continuer à le faire. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à le faire et ça nous fait très plaisir. Demain, nous irons nous promener dans la Première Guerre mondiale, dans le Paris de 14-18, un Paris bombardé dont on ne parle quasiment jamais. Nous le ferons en compagnie, encore une fois, de toute une pléiade de grands invités. Merci à tout le monde, évidemment à Marion, à Lorena, à Guillaume, à Fabrice. Je vous dis donc à demain pour cette nouvelle formule, Julia.